Alors que Barkhane est traîné devant le Conseil de sécurité pour crimes de guerre et complicité avec les terroristes et agents de services secrets occidentaux dits djihadistes, le danger en est-il écarté pour de bon? Rien n'est moins sûr, alors que les médias à la solde se sont focalisés exclusivement sur le gaz, comme principal motif de la visite précipitée de Macron en Algérie, visite que Macron aurait tout donné pour ne pas avoir à le faire, puisqu'il s'est réduit au rang de mendiant, certains analystes estiment qu'il y a beaucoup trop de Sahel dans cette visite à ce qu'il en apparaît. Ce samedi 27 août, les agents se font état d'une médiation sénégalaise dans cette affaire, signe que l'Algérie a renvoyé le président français baladé, néanmoins en ce qui concerne une entremise algérienne pour que la France ne se trouve pas sur les bancs des accusés devant le Conseil de sécurité qui, certes, n'ira pas jusqu'à voter une résolution condamnant l'action criminelle de Barkhane, le CS étant composé à moitié des pro-Barkhane, mais qui aura néanmoins la vertu d'être une première sortie anticoloniale d'un État africain ayant réussi une percée jusqu'à l'ONU. Les agents écrivent. Intervenant sur RFI, la chef de la diplomatie sénégalaise Aissata Tall Sall a soutenu que Dakar suit de près ce bras de fer entre Bamako et Paris. On souhaite que tout ce qui se passe dans notre espace, à côté de nous et particulièrement au Mali, se règle par la négociation, l'entente et dans la plus parfaite cordialité, a indiqué la ministre des Affaires étrangères sénégalaise. Mais les preuves que détient le Mali et qui permettra à Diop de porter au grand jour l'ampleur de l'imposture qu'est la soi-disant lutte antiterroriste de l'Occident en Afrique et qui prouve la totale interconnexion entre l'état-major français et les terroristes daéchistes du Maghreb ne sont pas les seuls à donner du grain à moudre à l'occupation française qui, boutée hors du Mali, a pris le relais au Niger voisin et au Burkina et ce, dans le strict objectif de créer un front uni pour prendre régulièrement d'assaut le Mali au niveau de la région des trois frontières. Au fait, le 25 août, alors que le président français atterrissait sur le sol algérien afin de quémander à la fois le gaz et la médiation d'Alger entre la France et Bamako, le ministre iranien des Affaires étrangères, lui, quittait le Mali au terme d'une visite parfaitement inouïe et aux objectifs géostratégiques sur quoi la presse atlantiste a préféré garder le silence tant les résultats pourraient en être un séisme au cœur de la France-Afrique. Lors d'une rencontre avec le général Goïta, le ministre iranien des Affaires étrangères a très clairement évoqué l'idée d'une coopération militaire, genre ce que l'Iran a fait en Syrie et en Irak, où à la demande des États concernés, il s'est engagé dans les combats directement par conseillers militaires interposés. Mais en quoi pourrait consister une coopération Mali-Iran pour lutter Daesh et ses tentacules au Sahel? Il y a évidemment le transfert d'armes et d'équipements. Tout le monde parle de très bons drones iraniens et même la Russie s'en est procurée pour mener à bon terme sa guerre face à US OTAN en Ukraine, puisque ce sont là désormais des moyens de guerre inévitables dans toute confrontation militaire où le vainqueur serait celui qui tiendrait plus le coup. Il va sans dire que le colonel Goïta ne pourrait ne pas demander à ce que les drones iraniens ne soient livrés à l'armée malienne face à une base de drones US-France à Agadez, au Niger, d'où les missions aériens occidentaux partent régulièrement en mission contre les forces armées maliennes ainsi que les civils. Mais une coopération militaire, ce n'est pas que des armements. Il y a aussi une manière de savoir-faire militaire que les conseilleurs militaires iraniens pourront transmettre aux FAMA. Au fait, dans le sud du Liban où le Hezbollah combattait dans les 80, l'occupation israélienne, c'est cette guérilla asymétrique qui a permis à ce que l'entité sioniste soit mise au pas. L'une des faiblesses des FAMA se trouverait là. Il s'agit d'une armée entièrement claquée sur le modèle de l'armée coloniale et partant difficilement adaptable au combat asymétrique. La résistance pourrait lui apporter une conception asymétrique de combat et colmater ainsi la brèche où s'engouffrent depuis 8 ans les services secrets occidentaux pour faire saigner le Mali. L'Iran est-il en train de construire un front anti-sanctions africain qui a commencé au Mali et s'étendrait désormais jusqu'en Tanzanie? Les sanctions en tant que levier de pression occidentale sont-elles désormais impuissantes face à cette coalition Iran-Afrique qui vient de naître et qui a déjà fait ses preuves au Moyen-Orient et en Asie entre l'Iran-Syrie et l'Iran-Russie, mais également entre l'Iran et ses voisins de la mer Caspienne? Il semblerait que oui, puisque la visite du ministre iranien des Affaires étrangères en Tanzanie, alors que les États-Unis continuent à maintenir les sanctions, le laisse supposer. En tournée africaine, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a été reçu par son homologue tanzanienne, Liberata Mulla Mulla, dès son arrivée jeudi 25 août. À l'issue de la première réunion commerciale Iran-Tanzanie tenue à Dar es Salaam le même jour, le chef de la diplomatie iranienne, se disant satisfait de la rencontre, a souligné que les priorités de l'Iran en ce qui concerne la politique étrangère et la relation économique incluent les pays africains, en particulier la Tanzanie. Le ministre iranien rappelant que la Tanzanie, l'un des plus importants pays du continent africain, avait toujours occupé une place particulière dans la politique étrangère iranienne, a souligné que l'opinion positive entre les peuples et les autorités des deux pays était partagée et que leurs relations étaient historiques. Déclarant que la République islamique d'Iran est l'un des pays industrialisés et développés d'Asie, Amir Abdollahian a déclaré: notre pays est grandement apte à offrir ses services dans le domaine d'ingénierie technique, de l'exportation de produits pétrochimiques et de produits fondés sur le savoir. Nous sommes en mesure d'aider la Tanzanie à atteindre ses objectifs en matière de développement et d'industrialisation. Tout en confirmant la fermeté bipartite pour accorder la priorité aux relations économiques, Amir Abdollahian a également souligné: notre présence ici, avec plus de 20 entreprises privées et gouvernements, montre le sérieux de l'Iran pour la coopération commerciale avec la Tanzanie. Les coopérations Iran-Afrique s'étendent aussi bien dans l'Afrique francophone qu'anglophone. Des coopérations gagnantes-gagnantes qui pourraient aider les deux parties à contourner les sanctions, le colonialisme et l'unitarisme du bloc occidental. Du Mali en Tanzanie, du Nigeria au Zanzibar, une coalition sans précédent est en train de naître. L'ère du colonialisme est résolue et ce sont les pays africains eux-mêmes qui choisissent leurs partenaires. Un comité chargé de rédiger un projet de constitution a été créé en Centrafrique, selon un décret signé vendredi par le président Faustin Archange Touadéra. Les médias mainstream évoquent le fait que l'opposition n'acceptera pas un nouveau mandat du président. À qui nuira un nouveau mandat de Touadéra? Luc Michel, géopoliticien, s'exprime sur le sujet.
C'est essentiellement un problème pour permettre le troisième mandat. Qui, suivant l'agenda occidental, ne l'est pas permis depuis la conférence de François Mitterrand à La Baule au début des années 90. Il est essentiel pour Touadéra de faire ce troisième mandat parce que son œuvre n'est pas terminée, le redressement du pays n'est pas terminé, et il a face à lui un lobby qui est constitué par les partisans de la France-Afrique, les partisans des groupes armés de Bozizé et de l'opposition Combrador. La majorité de la population, évidemment, comme le démontrent régulièrement des manifestations, est pour ce changement de constitution, le troisième mandat. Il y a eu ce 24 août une très importante conférence à l'université de Bangui, où tous les universitaires centrafricains ont pris dans leur position pour la réforme constitutionnelle. Il faut noter que Jeune Afrique, qui est le moniteur officieux de la France-Afrique, a reconnu la défaite de la France-Afrique et la victoire de Touadéra en disant qu'on ne voyait plus qui pouvait encore s'opposer au troisième mandat. Mais ils ont accompagné ça d'une campagne de diffamation puisqu'ils accusent les manifestants qui se sont mobilisés pour Touadéra en fait de répondre à des versements d'argent, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est l'hostilité de la France-Afrique. Il y a en permanence une série d'articles contre ce qu'ils appellent le fantomatique groupe Wagner, en fait les paramilitaires russes, et qui concernent évidemment la Centrafrique, le Mali, ou maintenant la République démocratique du Congo, puisque les militaires congolais ont pris contact avec la Russie pour faire venir les paramilitaires. C'est donc une victoire totale pour Touadéra. Et bien entendu, la suite de l'opération, ça sera l'éviction des Français, puisque Touadéra envoie un chemin qui rappelle celui des colonels maliens, mais où le Mali emploie le hard power, Touadéra emploie le soft power, c'est-à-dire qu'il emploie la méthode douce. Ça fait des problèmes dans le pays et ça empêche la pacification. Il y a encore évidemment un appui qui est donné par ces gens aux groupes rebelles, etc. Mais fondamentalement, Touadéra a gagné la bataille du troisième mandat et de la révision de la Constitution. Et de plus, son parti présidentiel, le Mouvement des Cœurs Unis, est majoritaire avec ses alliés.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré la présidente tanzanienne à Dodoma. Le ministre iranien des Affaires étrangères, qui s'est rendu en Afrique, a rencontré la présidente de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, avec qui il s'est entretenu sur diverses questions d'intérêt commun. Dans le cadre de sa tournée africaine et ses rencontres officielles avec les responsables de la République de Tanzanie, Hossein Amir Abdollahian a rencontré la présidente tanzanienne Madame Samia Suluhu Hassan vendredi après-midi 26 août, avec qui il a discuté des dernières évolutions liées aux relations bilatérales et internationales. Le docteur Amir Abdollahian, tout en transmettant les salutations du président de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raisi, et en invitant la présidente tanzanienne à se rendre en Iran, souligne l'intérêt de l'Iran pour le développement de ses relations avec les pays africains, en particulier la Tanzanie, le qualifiant d'une des priorités de la politique étrangère du 13e gouvernement iranien. Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations au 5e forum sur la coopération médiatique Chine-Afrique, notant que la Chine et les pays africains constituent une communauté d'avenir partagée avec des hauts et des bas. Le président chinois a déclaré que les médias des deux parties assumaient de grandes responsabilités dans le renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération, le maintien de la paix mondiale et la promotion du développement mondial. Il a indiqué que depuis la création du forum il y a 10 ans, ce dernier avait fourni une plateforme importante pour les médias chinois et africains afin de faciliter le dialogue et la coopération, et qu'il avait joué un rôle actif dans la promotion des échanges entre civilisations et l'approfondissement du partenariat stratégique et global entre la Chine et l'Afrique. La dette publique de la République guinéenne a baissé de plus de 180 millions de dollars entre le premier et le deuxième trimestre 2022. L'annonce a été faite par le ministère guinéen de l'économie via un communiqué de presse publié sur son site le mardi 23 août. Selon la note d'information qui cite le bulletin statistique de la dette publique, la dette du pays est passée de 7 203 milliards de dollars au premier trimestre à 7 018 milliards le trimestre suivant. Ce recul du taux d'endettement est le résultat de la gestion prudente de la dette qui privilégie le recours aux emprunts concessionnels en conformité avec les réformes des finances publiques, explique le communiqué. Le stock actuel de la dette est constitué à 56% de la dette extérieure, soit plus de 3,9 milliards de dollars, et à 44% de la dette intérieure, soit plus de 3,08 milliards de dollars. Le gouvernement mozambicain a en projet de rénover environ 5 000 km de routes dans le centre et le nord du pays d'ici 2024, rapporte le média local Agencia de Information de Mozambique. Les routes ciblées qui se trouvent dans les provinces de Nampula, Niassa et Zambezia devraient être réhabilitées grâce à des prêts sollicités auprès de l'Union européenne et la Banque mondiale. Le projet vise à renforcer l'accessibilité des bassins agricoles du pays localisés pour la plupart dans le nord afin de permettre un écoulement plus facile des productions agricoles vers les zones de consommation urbaines.